Boumang, Nicolas, avec l'historienne Laure Murat ce matin. C'est parti. Je suis très très embêté là, je suis très embêté parce que je pensais qu'on avait annulé Noël. Bah ouais, vous vous souvenez, il y a eu un tollé. On avait effacé le mot Noël, on n'avait plus le droit de le dire, on devait dire bonne fête. Parce que certains ou certaines progressistes, pour ne pas dire wokistes, se sentaient offensés ou discriminés. Et c'est venu, peut-être que vous vous en souvenez, d'un manuel présenté par la commissaire européenne chargée de l'égalité pour une communication plus inclusive. Il y avait cette indication, très critiquée, de dire bonne fête plutôt que joyeux Noël. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce document, qui était une série de propositions, il a été retiré. Donc c'est pas du tout Noël qu'on a annulé, la preuve, tout le monde vous l'a souhaité, c'est ce manuel d'inclusivité. Et ça pose une question passionnante sur la cancel culture, dont on nous dit qu'elle est partout, qu'on n'a plus le droit de rien faire, qu'on ne peut plus rien dire, qu'on annule nos traditions et qu'on efface notre passé. Si on y regarde de plus près, bah c'est toujours un petit peu plus compliqué. On a annoncé, vous vous souvenez, la fin de l'homme blanc, de l'hétéro, des cathos, du drapeau, j'en passe parce que la liste est infinie, mais force est de constater qu'ils sont toujours là et qu'on les entend exister. Peut-être plus que jamais. Les wokistes, comme vous les appelez, quand bien même ils le souhaiteraient, ce qui reste à prouver, n'ont manifestement pas le pouvoir de les annuler, de les effacer ou de les cancel, si vous voulez. Alors qui annule quoi? Bah, c'est peut-être ça la question qu'il faudrait se poser.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Qui annule quoi pour mon invité d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle elle répond dans un texte sur ce qu'on nomme cancel culture qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Historienne et professeure à UCLA en Californie, elle examine avec minutie les impensés de l'histoire et du présent. Ce matin, elle est venue nous aider à prendre un peu de hauteur par rapport aux polémiques incessantes que suscite la cancel culture. Bonjour Laure Murat.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte cancel culture? Parce que tout le monde utilise cette expression au point même d'en faire des colloques introduits par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, mais c'est pas si clair.
C'est pas si clair parce que je crois que ça n'existe pas, tout simplement. Cancel culture, littéralement, ça veut dire culture de l'annulation. Mais si vous regardez d'un peu près les exemples qu'on prend, personne n'est annulé.
Alors précisément, quels sont les exemples que l'on prend? À quoi on fait référence quand on emploie ce terme? Au hasard, à un professeur exclu parce qu'il est jugé islamophobe, à une romancière, J.K. Rowling, pour ne pas la nommer, qui n'est plus invitée parce qu'on l'accuse d'être transphobe, à une statue qu'on déboulonne, à une personne qui perd son travail après une accusation sur les réseaux sociaux. C'est ça?
C'est exactement ça, parce que c'est le fouillis et le fourre-tout que désigne ce terme de cancel culture, qui a été inventé en réalité par la droite, voire l'extrême droite américaine, pour dénoncer, au fond, la volonté progressiste de certains militants, alors qui emploient quelquefois des méthodes qu'on peut trouver suspectes ou désagréables. Mais enfin, il ne s'agit jamais que de protester, de militer, de dénoncer des propos racistes, homophobes, sexistes, avec un instrument qui est Internet. Vous savez que les activistes, maintenant, sur Internet, on les appelle les clicktivistes. Et donc, c'est une façon de s'exprimer pour protester, de la même façon que le boycott est une façon, enfin, c'est la liberté d'expression.
Mais quand vous dites « ça n'efface pas », quand vous dites « ça n'annule pas », que dire de ces exemples que je viens de citer?
Prenons des exemples précis. Par exemple, si vous parlez de Kevin Spacey, l'acteur américain qui a été littéralement, alors là pour le coup, annulé d'un film… effacé d'un film. Mais ça, ce ne sont pas les militants qui font ça, c'est le réalisateur et le producteur. Celui ou celle qui annule, les seuls qui peuvent annuler, c'est le pouvoir et le gouvernement.
C'est la grande question que vous posez, et c'est ce qui est absolument fascinant dans ce libelle. Qui annule? Qui en a le pouvoir? Au fond, c'est ça que nous raconte l'expression cancel culture. Il faut peut-être nous rappeler d'où elle vient, cette expression, quelle est son origine et qu'est-ce que ça raconte, justement?
Ça raconte l'histoire d'une lutte, je crois, parce que maintenant, on confond aussi beaucoup cancel culture avec la pensée woke, c'est-à-dire éveillée. C'est une façon, de rester éveillé à certains problèmes quand les gouvernements et le pouvoir ne le sont pas ou ne veulent pas l'être.
Essaye de disqualifier certaines revendications, en fait.
Exactement. Pour prendre des exemples récents, quand la Cour suprême de Russie annule une association qui s'appelle Mémorial, qui a été constituée par des historiens pour analyser les crimes du communisme, ça, c'est de l'annulation.
Ah oui.
Parce que seul le pouvoir officiel peut faire ce genre de choses. Quand les militantes féministes protestent contre la célébration de Roman Polanski, je ne juge même pas du pourquoi, du comment. Quand elles font ça, elles exercent leur liberté d'expression. Il ne me semble pas que Roman Polanski ait été d'aucune façon annulé. Il a été nominé 12 fois, il a eu 3 Césars et il continue à faire des films.
Alors si la cancel culture n'annule pas Laure Murat, c'est qu'elle est mal nommée. Dans quelle mesure s'agirait-il peut-être de repenser l'expression, de lui imaginer une alternative ?
Alors, l'alternative, c'est simplement, je vous dis, une culture de la protestation. En réalité, c'est une très vieille chose. Alors, dans le petit libelle que j'ai sorti, j'analyse une occurrence en particulier qui est le déboulonnement de statues. Parce que après la mort de George Floyd, donc cet homme qui est mort sous le genou d'un policier, ça a fait le tour du monde, il y a un certain nombre de statues qui ont été déboulonnées dans le monde entier. Donc c'est un phénomène global. On accuse beaucoup les États-Unis parce qu'en France, l'américanisation de la société française est une sorte d'épouvantail atroce. La réalité, la vérité, c'est qu'on ne veut pas retourner à l'origine des protestations. Alors, quand on déboulonne des statues qui sont en général celles aux États-Unis, de généraux confédérés, c'est-à-dire les sudistes qui soutenaient l'esclavage, qu'on déboulonne des statues de colons et de colonialistes français, on dit on veut annuler l'histoire, annuler les faits historiques. Les faits historiques sont là, ils sont dans les livres, ils sont dans les musées. On ne veut pas célébrer un certain pouvoir. Pourquoi ? Parce que l'actualité nous rappelle que l'esclavage, le colonialisme, le racisme sont toujours présents dans la société et qu'il faudrait peut-être faire le lien avec l'histoire. Vous savez, moi j'ai été la première à m'offusquer au début, a priori, quand on a commencé à déboulonner la statue de Schœlcher, qui est celui qui a vraiment beaucoup participé à l'abolition de l'esclavage, c'est lui qui l'a soutenu, qui a soutenu ce projet. Quand on a déboulonné Lincoln, qui a aboli l'esclavage aux États-Unis, quand on a déboulonné la statue de Winston Churchill à Londres. Ces déboulonnements divers et variés pointaient des problèmes spécifiques et nous rappellent que l'histoire n'est pas faite d'un bloc, et qu'il faut y réfléchir.
On va y revenir évidemment, mais quand certains en France parlent, c'est intéressant ce que vous dites, d'une américanisation des idées, de l'université, du débat, qu'est-ce que ça vous évoque à vous qui y enseignez aux États-Unis ?
Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup que c'est un mouvement qui est parti des campus américains. Ben, ça me fait toujours rigoler quand j'entends ça, parce que
c'est faux.
Les Français doivent être des grands spécialistes des campus américains, c'est simplement des endroits où on essaie de réfléchir, rien ne part spécifiquement des campus américains. Moi-même, en tant que professeur, je suis très attentive à ça parce que j'ai toujours été férocement opposée à toute censure. Et donc, il n'est pas acceptable d'avoir une forme d'orthopédie mentale qui m'obligerait à dire ceci ou à ne pas dire cela. Bon. Il y a deux expressions en anglais que j'aime beaucoup, qui sont beaucoup utilisées sur les campus américains, et qui sont celles de comfort zone
et zone de safe, confort.
Voilà, et de safe space.
L'espace sécure.
Voilà, où on se sent bien. Alors, je crois que l'université doit être un endroit où on se sent bien, où il n'y ait pas d'insultes racistes, où il n'y ait pas d'homophobie, où il n'y ait pas de sexisme, où on fasse attention à tous ces problèmes de harcèlement sexuel, etc. Mais que ça ne doit pas être une zone de confort, c'est-à-dire un confort de la pensée qui ne pourrait plus aborder des sujets qui fâchent.
Et surtout, dans quelle mesure cette idée, pour y revenir, que la cancel culture serait une tendance importée des États-Unis, c'est inexact, Laure Murat. En quoi tous les pays de tout temps ont-ils à leur manière pratiqué une culture de l'annulation, en renversant des statues, par exemple, vous en parliez ?
On pourrait remonter au sac de Rome, hein, donc ça fait quand même très loin, il y a très très longtemps.
C'est passionnant,
au VIe siècle. La culture révolutionnaire française est très intéressante aussi à cet égard, puisque c'est un révolutionnaire français, l'abbé Grégoire, qui a inventé le terme de vandalisme, hein, pour justement en souvenir des vandales et du sac de Rome. Et il a très bien dit qu'il avait inventé ce mot pour tuer la chose. Pour la cancel culture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on invente une expression épouvantail pour masquer des problèmes qui perdure aujourd'hui.
Alors vous dites, et c'est intéressant, et vous le rappelez, et vous ne le niez pas, qu'il peut y avoir quand même certaines dérives. À quoi vous pensez quand vous dites ça? Donne-nous peut-être un exemple.
Alors, les dérives auxquelles je pense essentiellement, mais je suis mal placée pour en parler parce que je ne suis pas moi-même sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui s'apparente au lynchage. Hein. Le lynchage, la chasse à l'homme, c'est très dangereux. Et le cyberharcèlement, pour moi, est quelque chose d'absolument abject.
Pourquoi je vous parle de dérives, Laure Murat? Parce qu'en fait, en se focalisant sur ces dérives, quelles qu'elles soient, on ne fait qu'écarter toute possibilité de débat sur le fond et sur les enjeux de la cancel culture. C'est ça que vous nous montrez dans votre livre.
Mais je suis contente que vous pensiez ça, et je suis désolée de voir, puisque vous l'évoquiez en début d'émission, qu'un colloque s'est tenu récemment à la Sorbonne, exclusivement à charge contre ce qu'on appelle la pensée décoloniale, et il a été conclu par Thierry Coulon, qui est celui qui est chargé par le gouvernement d'évaluer la recherche dans l'enseignement supérieur. Pas une seule personne représentante de la pensée décoloniale n'était présente à ce colloque. Ça, c'est de l'annulation. Et pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qui soutient ce genre de choses.
C'est quand même ironique.
C'est triste.
À quel débat de fond nous invite à réfléchir la cancel culture? De quoi la cancel culture est-elle peut-être le symptôme? De quel traumatisme, Laure Murat?
Ah, c'est une question compliquée, ça. Je crois que c'est le symptôme de beaucoup de choses, et si je voulais être un peu pessimiste, ce que je déteste, je dirais que c'est le symptôme d'une polarisation des débats qui ne parviennent pas à trouver un sens de la dialectique, de la contradiction et du progrès, justement. C'est un mot compliqué, le progrès, mais enfin, disons du progrès dans une certaine pensée qui nous permettrait de faire le lien entre ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce soit la guerre d'Algérie, l'esclavage, la colonisation, et la situation actuelle des discriminations envers les personnes racisées, envers les femmes, envers tous ces problèmes à l'embauche ou que ce soit les inégalités salariales. Il y a un lien entre le passé et le présent. Il ne faut pas l'exagérer non plus, mais il faut en être conscient.
Celle qui ne fait pas dans le progrès dans cette émission, Laure, vous la connaissez, c'est évidemment la culture et son actualité qui n'annule rien du tout. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 10 janvier?
Terminus, nous vous invitons à descendre.
Banco Banco, le Navigo. Dès aujourd'hui, les détenteurs d'un pass Navigo, soit 4 millions de franciliens, vont pouvoir profiter davantage de tarifs réduits, de visites gratuites dans près de 300 lieux culturels d'Île-de-France, parmi lesquels 147 salles de cinéma, 12 festivals ou encore 63 musées. Concrètement, les heureux navigants pourront visiter gratuitement les collections permanentes de la Manufacture de Sèvres, avoir accès à des réductions au musée d'Orsay ou encore se voir offrir une boisson chaude à la briqueterie de Vitry. C'est joli.
Thank you, Golden Globes.
Globe doré boycotté, mais globe doré distribué sous le feu d'accusations de racisme, de sexisme et de corruption depuis plusieurs mois, boudé par les artistes et privé de diffusion télé, les Golden Globes ont quand même remis hier leur trophée 2022 lors d'une cérémonie à huis clos. Résultat, The Power of the Dog de Jane Campion et West Side Story de Spielberg dominent le palmarès cinéma en repartant avec 3 statuettes chacun, tandis qu'en télévision, la série HBO Succession s'impose avec 3 récompenses, dont celle du meilleur drama.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais, combien on est? Beaucoup.
Et soudain, Stromae, hier, le chanteur-compositeur belge a créé l'événement aux 20h de TF1 en révélant son nouveau morceau titré « L'Enfer ». Au détour d'une question d'Anne-Claire Coudray sur la solitude, l'artiste a entonné par surprise la chanson dans laquelle il évoque ses pensées suicidaires et l'enfer qu'elles lui ont fait vivre. Génie du happening et de la mise en scène spectaculaire, Stromae avait déjà bousculé les codes en dévoilant tous les mêmes chantés en duo avec lui-même sur le plateau du Grand Journal de Canal+, en 2013. Son nouvel album « Multitude » est attendu pour le 4 mars prochain. Et c'est trop bien.
De la maison d'acier à la maison ronde, de la maison de l'art à celle de la radio, les 9 sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont donc choisi Jean Maheu.
Je suis très heureux parce qu'il s'agit d'une très belle responsabilité.
Président de Radio France entre 1989 et 1995, Jean Maheu s'est éteint hier, il avait 90 ans. Diplômé de l'ENA, collaborateur du général de Gaulle, amoureux des arts, il avait consacré sa carrière à la direction d'institutions culturelles, notamment le Centre Pompidou dans les années 80, ou la Maison de la Poésie de la ville de Paris à la fin des années 90. Poète lui-même, il avait aussi signé plusieurs recueils. Radio France et Sybille Veil saluent un ancien président très apprécié, qui a eu à cœur de laisser s'exprimer tous les talents dans une grande liberté. Adieu, Jean Maheu. L'historienne et universitaire Laure Murat, invitée de Boomerang ce matin pour parler de quoi, mais d'aujourd'hui. J'aimerais que l'on revienne précisément, si vous le voulez bien, sur l'exemple que vous prenez dans votre livre pour parler de cancel culture, celui du renversement de certaines statues. Parce que c'est quand même passionnant. En quoi renverser une statue, ce n'est pas nécessairement effacer l'histoire ou même la réécrire, comme le pensent certains.
Ce n'est pas l'effacer et la réécrire parce que l'histoire se fait ailleurs. Quand on déboulonne une statue, on proteste contre la célébration d'un pouvoir qui a commis des exactions et des crimes. Une statue qui tombe n'efface en rien les crimes du communisme. Vous pouvez faire tomber toutes les statues de Staline, on continuera à étudier le stalinisme.
Qui écrit l'histoire d'ailleurs, Laure Murat ?
Les historiens en général, qui se font... les scribes, mais aussi les interprètes de ce qui se passe.
Quel rôle est-ce que vous avez l'impression de jouer, vous, justement, en tant qu'historienne ?
Il est très difficile pour quelqu'un qui, disons, qui se penche sur le passé, qui essaye de problématiser le passé en fonction du présent, d'intervenir dans l'actualité. Parce qu'on ne peut pas faire comme si faire de l'histoire était neutre. La fameuse objectivité de la recherche, on peut en parler. Mais vous savez, quand le colloque, ce fameux colloque se tient à la Sorbonne, c'est du militantisme et de l'idéologie.
C'est absolument passionnant ce que vous dites. Et puisque vous abordez cette problématique du temps en parlant du présent, je voudrais vous parler du passé. Dans quelle mesure, pour reprendre une citation de l'historienne américaine Christine Ross, que vous reprenez dans votre texte, n'y a-t-il rien de plus imprévisible que le passé ?
C'est une très belle phrase de Christine Ross qui a travaillé sur la Commune notamment, qui est une grande historienne. Elle dit oui, le passé est imprévisible. Pourquoi ? Alors ça peut paraître évidemment un paradoxe, ce que c'est sans doute, parce que l'historien passe son temps à non pas à faire du révisionnisme, mais à réévaluer. Hein ? Sinon, il n'y aurait pas 50 biographies de Louis XIV.
Oui.
Sinon, il n'y en aurait qu'une et ce serait réglé. Il n'y aurait pas 50 expositions sur Van Gogh. Bon, on relit, on réétudie, on réinterprète. Et ce n'est pas tordre le sens, c'est au contraire ajouter du sens, en fonction de l'époque où on vit.
Ceci étant dit, Laure Murat, une fois que la statue d'un personnage historique a été renversée, par quoi on la remplace ? Par qui on la remplace ?
Alors, ça c'est une grosse question que je n'ai pas résolue. C'est à l'étude, hein, évidemment que les gens y pensent. Par quoi les remplacer ? Alors, j'aimerais revenir juste une minute sur la Révolution française. Les révolutionnaires ont abattu des centaines de statues du monarque, des symboles de la royauté, etc. Qu'est-ce qu'on a inventé en 1793 pour préserver ce patrimoine qui est en passe de disparaître ? On a inventé le musée, tout simplement.
Oui.
Le musée du Louvre date de 1793 et il est suivi deux ans plus tard du musée des monuments français qui ont été conçus spécifiquement pour préserver ces symboles de la tyrannie et de la lutte contre la liberté. Bon, alors aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait les mettre au musée ? Les mettre au musée, c'est encore d'une certaine façon les préserver. Moi, je plaide pour, une fois de plus, hein, des solutions dialectiques, c'est-à-dire contradictoires. Est-ce qu'on doit les échanger, en quelque sorte, contre des femmes noires, etc. ? Ça me semble être toujours dans le même système de représentation, d'autant qu'on trouve toujours des zones d'ombre chez tout le monde.
Alors,
ça n'a aucun sens.
C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on les remplace forcément par des statues ? C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être la statue le problème.
Moi, je crois que c'est la statue le problème. C'est notre rapport à la monumentalité. Qu'est-ce que ça veut dire que célébrer ? On célèbre une idée, on célèbre une personne, on célèbre un gouvernement, on célèbre quoi ? Alors, je crois que personnification, l'incarnation dans une personne, c'est quelque chose qui est très dangereux. On pourrait les remplacer par un arbre, par exemple, et contribuer à l'écologie, ça serait intéressant. Il y a peut-être d'autres formes à trouver. L'art contemporain pourrait s'y pencher, ça serait intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Beaucoup d'artistes y réfléchissent.
Alors cette question, Laure Murat, des statues, de leur déboulonnage, de leur remplacement ou de leur représentation, peut peut-être être envisagé comme une façon de repenser un certain régime de représentation.
Exactement. Changer de régime de représentation, c'est extrêmement compliqué. Ça repose sur 2000 ans d'histoire, au moins, évidemment, et une forme d'habitude, hein, de l'espace public tel qu'on le connaît. Mais je crois que c'est une perspective qui est très stimulante et très excitante, au fond.
On va en reparler, évidemment, de représentation, de statut, de révolution aussi, juste après. Allez, Talking About a Revolution, Tracy Chapman, en 1988. Vous êtes sur France Inter, avec Laure Murat. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Don't you know, talking about a revolution sounds... Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. People gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Ce qui frappe, c'est évidemment son regard, d'un bleu perçant dans lequel on a envie de se noyer, le cheveu court et gris-souris, quelque chose de royal dans le port de tête et la façon de se tenir, quelque part entre la princesse de Clèves et Marie-Thérèse d'Autriche, avec un petit côté Olympe de Gouges, l'historienne Laure Murat, invitée de Boomerang pour parler du présent, du passé, du futur, mais aussi de regard. Du regard comme outil pour une activité critique. Votre regard, comment et à partir de quoi est-ce qu'il s'est formé ?
Ce regard, je l'ai formé en travaillant à partir d'une méconnaissance totale, d'une grande ignorance. Voilà. C'est ma grande ignorance qui a fait que j'ai eu la curiosité d'aller chercher et de regarder les choses peut-être différemment que le fait justement l'université en particulier.
C'est la question que j'allais vous poser. Comment est-ce qu'on apprend à regarder, en fin de compte ?
Il y a une phrase de Charles Peguy que j'aime beaucoup et qui dit... Il faut dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut voir ce que l'on voit. Alors, ça a l'air idiot comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que quand vous regardez quelque chose, que ce soit un objet, une personne, ou que vous contemplez une idée, vous ne savez pas très bien ce que vous voyez. Donc, il faut du temps et il faut beaucoup de travail. Et beaucoup de rêverie aussi, et d'imagination.
C'est passionnant ce que vous dites, parce qu'on en revient à la relecture. Moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans votre livre. Par la relecture de certains livres, on peut apprendre à regarder, par le revisionnage de certains films aussi, par un retour sur des œuvres qui ont fasciné l'imaginaire collectif. À vous lire, c'est l'impression que j'ai eue.
Tant mieux, parce que la relecture est un problème, une activité en tout cas qui m'intéresse énormément. C'est celle de la répétition, mais comme vous savez, il y a jamais la répétition, ça n'existe pas. puisque ne serait-ce que d'un point de vue temporel, hein, quand vous répétez une phrase deux fois, bah, la deuxième, elle est plus tardive que la première. Ne serait-ce que ça. On ne regarde jamais les choses de la même façon, on ne relit jamais les livres de la même façon. Donc, ça donne beaucoup d'espoir, finalement.
Et ça enrichit, je pense tout de suite à la tribune que vous aviez publiée dans Libération il y a 5 ans à propos du film Blow Up. Pourquoi avoir choisi ce film, Laure Murat ?
Parce qu'il m'a paru très caractéristique. J'ai pris un grand chef-d'œuvre du cinéma, c'est un très grand film passionnant, qui par ailleurs, et c'est important de le souligner, travaille sur ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, puisque c'est l'histoire d'un photographe qui photographie une scène où il y a quelque chose qu'il ne découvre qu'à l'agrandissement. Et ça, c'est très intéressant, puisque c'est justement en revoyant sur un autre médium qui est la photographie, c'est aussi un film sur le cinéma, bien entendu, et sur la façon de voir. Donc, c'est un film sur un impensé, quelque chose qui n'est pas vu. Or, il m'a semblé, au moment de Me Too, quand la Cinémathèque américaine plébiscitait ce film, etc., je trouvais que c'était intéressant, puisqu'il y a une scène, notamment dans Blow Up, qui est en réalité la scène d'un viol, déguisée en une scène joyeuse, et surtout qui esthétise un forfait. Et ça m'a paru très intéressant, cette façon de déguiser le viol et de ne pas le voir, comme moi je ne l'ai pas vu la première fois. Quand j'ai vu le film, j'avais une vingtaine d'années. Je l'ai revu, j'en avais 50. Et tout d'un coup, ça m'a sauté aux yeux. Quelque chose d'évident, d'évident, parce que rien n'est caché. Tout d'un coup, vous le regardez autrement et je trouve ça intéressant. Je ne trouve pas ça condamnable. On m'a beaucoup fait reproche de ça, c'était grotesque, il suffit de lire ce que j'ai écrit. Et j'ai trouvé ça très intéressant, que ça pose des questions.
Ce que vous dites, c'est que le revisionnage permet de savoir d'où on vient, de comprendre ce qui a façonné notre imaginaire sans même qu'on s'en aperçoive.
Mais oui, bien sûr, c'est ça qui était étonnant. C'est que vous pouvez relire à plusieurs reprises La recherche du temps perdu, par exemple, et vous découvrez à chaque fois quelque chose de nouveau.
Et pour ce qui est de Blow Up, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'une volonté de condamner une œuvre, ni de la censurer, ni même de l'annuler ou encore de l'effacer au nom d'une morale, parce que cette œuvre, elle existe toujours, et elle existera toujours.
Et c'est tant mieux, bien entendu. Ce qui prouve aussi que c'est un grand film, c'est que aujourd'hui encore, on découvre des choses dessus, et on peut réfléchir à ces questions.
Mais Laure Murat, pourquoi est-ce que l'amalgame entre relire et censurer est-il si souvent fait ?
Alors là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, hein, parce que pour moi, l'exercice, si vous voulez, du sens critique ne peut pas se passer d'une relecture. Je ne dis pas qu'il faille condamner des œuvres parce qu'elles ont des contenus sexuels explicites. Ça, c'est l'œuvre des censeurs, précisément. C'est réfléchir différemment à différentes situations avec les mêmes œuvres. C'est la richesse même de l'œuvre qui permet ça.
Mais on peut quand même se demander à qui sert l'amalgame, pour aller plus loin. À qui sert la confusion ? Parce que ça, c'est une vraie question.
Oui, vous avez raison. Et là, on en revient à la polarisation des débats, parce qu'on accuse, bien entendu, les militants de Black Lives Matter ou de Me Too, par exemple, de vouloir faire de la censure, du moralisme, etc. Alors là, pour le coup, c'est pas une relecture, mais c'est une lecture complètement erronée de mouvements qui, au contraire, demandent à renouveler le sens.
Laure Murat en parlait à l'instant de Blow Up, et donc non seulement de la manière dont les femmes sont représentées à l'écran, mais dont les violences qui leur sont faites sont d'une certaine façon rendues invisibles. Quand vous voyez que le gouvernement a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité, que la prise de conscience auprès des Français et des Françaises n'a jamais été aussi forte, et que pour autant, le nombre de féminicides ne baisse pas, qu'est-ce que vous vous dites ?
Mais je me dis que d'abord que le gouvernement, bien entendu, ne fait pas son travail et ne répond pas à la promesse qu'il a faite. Ça, je crois qu'il ne faut pas seulement être féministe pour le savoir et pour le comprendre.
Parce qu'il y aurait moins de féminicides.
Je ne peux pas répondre. En revanche, la prise en charge par la police, par exemple, des femmes qui se plaignent, on a beaucoup entendu parler de ça dans la presse récemment, doit être, alors là, pour le coup, vraiment révisée, puisque on sait qu'il y a des femmes qui se plaignent une fois, deux fois, trois fois. La quatrième, elles se plaignent plus parce qu'elles sont mortes. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais qu'il faut vraiment instituer une politique publique, aider les associations qui sont très importantes dans ce travail pour que les choses changent.
Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a rien de plus imprévisible que le passé. Qu'en est-il du futur ? Qu'en est-il de demain ? Est-ce qu'il est étrangement plus prévisible, Laure Murat ?
Il y a une chose qui est prévisible, par exemple, c'est le réchauffement climatique. Moi, j'ai été très impressionnée par le film Don't Look Up, qui, d'une façon, enfin, manie de façon très habile le burlesque et le drame qui est là et qu'on ne veut pas voir. Je reviens à la phrase de Peggy, hein, il faut voir ce que l'on voit. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on va dans le mur et pourtant que les efforts consentis par les gouvernements, puisque c'est les seuls qui peuvent faire changer quoi que ce soit, ne sont pas à la hauteur.
Alors, quand vous pensez à demain, vous voyez le mur ou vous voyez plus loin ?
Je dirais que je vois ni l'un ni l'autre. J'essaye de rêver, voilà.
La voilà, la rêverie. Merci infiniment, Laure Murat.
Merci beaucoup.
D'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Qui annule quoi est publié aux éditions du Seuil, que ça vient de sortir, que c'est une lecture très éclairante et très stimulante. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça. Laurent Bardenne avec Bertrand Belin